vous invite à lire le chapitre 9. Esdras, chapitre 9, c'est, je trouve, très encourageant de faire une étude suivie d'un livre. Il y a des choses qu'on ne verrait pas, certainement, si on devait simplement choisir un texte. Je lis chapitre 9, verset 1er. « Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. » Ce texte d'Esdras, pour ceux qui ont raté le début peut-être, le livre d'Esdras parle du retour d'Israël après la captivité à Babylone. Et après ce retour, ils sont partis, ils étaient plusieurs millions, ils reviennent, ils sont quelques 50 ou 60 000 de retour à Jérusalem. Et à peine ils reviennent qu'ils se relient avec des femmes cananéennes, ce que la Bible leur interdisait. Quand un enfant est atteint de la varicelle, on l'emmène à la crèche, bien entendu, et on le place au milieu des enfants sains pour que la bonne santé des enfants sains se propage à cet enfant malade. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Au contraire, on le met à l'écart. On le sépare. Parce que c'est la maladie qui va gagner les autres enfants sains. Quand dans un panier de pommes, il y a une pomme qui est gâtée, on la laisse là, dans le panier, au contact avec toutes les bonnes pommes, pour que les pommes saines, eh bien, assainissent la pomme pourrie. Ce serait beau. Très beau, mais on a déjà fait l'essai chez nous régulièrement et franchement, c'est pas ça qui se passe. C'est toutes les pommes saines qui deviennent gâtées. Quand Salomon épouse des femmes païennes, ce sont les femmes païennes qui se convertissent joyeusement au Dieu de Salomon. Non, c'est encore le contraire qui se produit. C'est Salomon qui oublie Dieu. Et parce que cette loi opère dans le monde, alors Dieu a ordonné à son peuple de ne pas se marier avec des Cananéennes à cause du danger de l'idolâtrie. Et c'est ce qui s'est produit ici. De retour de captivité, ils se sont mariés avec des Cananéennes et déjà, ils commencent à imiter les abominations des Cananéens. Ce thème de la séparation, donc, parcourt tout le livre d'Esdras. C'est d'abord la séparation d'avec Babylone, au chapitre 1, versets 1 à 3. Et puis, celle avec le monde qui propose son aide pour la construction de la maison de Dieu, dans le chapitre 4, versets 1 à 3. Et bien ensuite, la séparation d'avec l'idée de dépendre de la protection humaine. Ça, c'est ce qu'on a vu récemment, chapitre 8, versets 21 à 23. Et puis enfin, celle d'avec les unions illégitimes. L'apôtre Paul, lui, plaide également pour une séparation, mais une séparation spirituelle. et quand il exhorte les chrétiens à ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ou quand il dit en Romains chapitre 12, versets 1 et 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ici, il y a une réalité, c'est que si on ne veut pas être contaminé par le péché, on a besoin de se séparer, de prendre une disposition et se séparer. Et donc, ce matin, je vous propose de voir le travail de repentance qui va être opéré dans le peuple d'Israël et de restauration. Et donc, pour cette repentance, que cette repentance s'opère, il faut d'abord une prise de connaissance. Ensuite, on verra une prise de conscience. Et puis, enfin, une prise de mesure radicale. Voyons tout d'abord une prise de connaissance du problème. C'est ce que l'on voit dans les premiers versets. Ça fait moins de 5 mois qu'ils se sont écoulés depuis l'arrivée d'Esdras à Jérusalem. Et puis, ce temps où ils ont commencé à proclamer la loi de l'Éternel, de la lire avec zèle, avec application, pour que le monde, le peuple l'entende et s'en souvienne et la mette en pratique. Et déjà, la parole commence à porter du fruit. Quand le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu, on peut s'attendre à des résultats prodigieux. Et l'un de ces résultats, c'est une repentance sincère. Ici, au verset 1, on trouve que les chefs d'Israël qui viennent trouver Esdras, et ils expliquent que plusieurs parmi le peuple se sont liés par mariage avec ces femmes cananéennes, non seulement des gens du peuple, mais aussi des lévites. Et des sacrificateurs, ceux qui sont censés connaître et même enseigner la loi. Et déjà, la corruption opère puisqu'ils imitent les abominations des Cananéens, ils imitent leur désordre moral. Et là, il y avait de la prostitution, de l'homosexualité, de la débauche, il y avait toutes sortes aussi de désordres spirituels. Il y avait des sacrifices d'enfants qui étaient faits à Moloch, une de leurs divinités. Il y avait l'occultisme, la magie, le spiritisme qui battaient leur plein dans ce pays de Canaan. Et tout cela parce qu'ils se sont mêlés par mariage avec ces femmes cananéennes. Et ils ajoutent que les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Et c'est cela qui est terrible, c'est que ceux qui sont censés être les modèles se sont fourvoyés. Et en cela, ils sont encore plus responsables, encore plus coupables. La confession des princes a provoqué une grande désolation chez Esdras, versets 3 et 4. Esdras s'arrache les poils de la barbe, s'arrache les cheveux, déchire ses vêtements. Il est dans la désolation la plus totale. Je ne sais pas si vous êtes déjà arraché les cheveux ou si vous êtes déjà tiré les poils de barbe. Ça fait mal. Il faut que le cœur soit littéralement anéanti. Et c'est ce qui est dit ici. Il se tient assis, désolé. Et le mot pour désolé, il est très fort. Ça signifie il est ravagé, il est dévasté, il est stupéfait, il est dans l'étonnement, dans la stupeur, il est troublé. C'est traduit encore se détruire, être haletant, être sujet d'effroi, être consterné, être dépouillé, être vide. Voilà l'état de son âme quand il entend ces choses-là. Il est catastrophé. Il est anéanti. D'autres s'assemblent autour de lui et ce sont ceux que font trembler les paroles du Dieu d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent les conséquences. Ils voient que le péché risque de provoquer à nouveau le jugement de Dieu. Et c'est cela qui les effraie. Ils sont saisis d'une crainte. Ils sont humiliés. Ils ne savent pas quoi faire et ça dure toute la journée et puis vient l'offrande du soir. Et l'offrande du soir, c'est l'occasion pour le peuple de se rassembler. C'est l'occasion aussi pour le peuple de prier. Et Esdras va prier. Il rentre dans le temple, il est humilié, ses vêtements sont en lambeaux, il a pleuré toute la journée, il se jette sur ses genoux, il lève ses mains vers le ciel, vers le Seigneur, et il prie. Chapitre 9, verset 5, je lis. « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation. Avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par des impuretés, des peuples et des contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec des peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchappé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous saurions ainsi subsister devant ta face. Plusieurs remarques que je voudrais faire dans la prière d'Esdras. Tout d'abord, c'est que Esdras s'identifie au peuple. Il ne s'est pas, lui, personnellement, marié avec des femmes cananéennes. Mais il dit sans cesse « nous ». Il dit « nous sommes coupables ». Il dit « nos iniquités ». Le péché des autres doit nous rappeler notre condition de pécheur. Comment est-ce que vous réagissez quand vous apprenez le péché de quelqu'un? Est-ce que vous allez chercher les pierres pour lui en jeter une? Ou est-ce que vous désolidarisez de cette personne, de ce pécheur? Vous dites, je n'ai rien à voir avec elle. Je n'ai rien à voir avec lui. Alors moi, je suis... Comment est-ce que nous réagissons? Ou bien êtes-vous saisi par la pensée que vous avez tout dans votre cœur pour commettre les mêmes choses et que c'est l'effet de la grâce de Dieu si vous n'êtes pas tombé aussi bas.
Vous souvenez, pharisiens et publicains qui montent au temple en Luc chapitre 18.
Le pharisien, il prie même pas, en fait. Il est en train juste de se glorifier devant Dieu, de ce qu'il n'est pas comme ce publicain. Et vous savez, parfois on fait cela. On jette l'opprobre sur quelqu'un pour au fond dire, moi je suis quand même pas comme lui, tu vois, je suis quand même beaucoup mieux. Et on cherche à s'élever en enfonçant, en jetant l'anathème ou en jetant l'opprobre sur l'autre. On s'élève aux dépens de l'autre. Mais le péché des autres devrait nous pousser à reconnaître notre nature pécheresse. Être mis en garde contre ce cœur tortueux que nous avons. Esdras en est conscient et il dit « nous ». Il sait que le péché, il est capable de corrompre et de gagner le peuple tout entier dans ses pensées. Au verset 7, Esdras rappelle dans sa prière que c'est pour s'être livré à ces abominations et à ces idolâtries qu'ils avaient connu la déportation. Il dit, mais Seigneur, on est parti en déportation parce que on a pratiqué ces choses. À cause de notre péché, à cause de nos abominations, à cause de ces liens qu'on avait tissés avec ces femmes qui nous ont amenés à adorer d'autres dieux, tu nous as emmenés en captivité. On a vu Jérusalem ruinée, on a vu le temple dévasté à cause de tout notre péché, on a vu notre vie détruite, on ne pensait plus avoir d'espérance. Et il pense à ça, et il dit, mais c'est pas possible. Et puis il pense au verset 8 et 9, il rappelle que Dieu vient de leur faire grâce. Il dit, mais dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu nous as pris quelques-uns de tes rachetés, et puis tu nous as ramenés là, en Israël, tu nous as ramenés à Jérusalem, tu nous as permis de reconstruire le temple, de célébrer à nouveau un culte après 70 ans de captivité. Seigneur, tu l'as fait. Ta grâce devrait nous pousser à t'aimer, à te suivre, à vouloir vivre pieusement d'une manière qui t'honore, qui te glorifie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné à nouveau à nos péchés d'autrefois. Et il dit, mais il, quand il pense à cela, il dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Que dirons-nous donc? Est-ce que nous nous souvenons d'où le Seigneur nous a tirés? Nous étions sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Ma vie à moi, elle était en ruine. J'avais même pas 21 ans. Ma vie était déjà en ruine. Il y avait tout pour rater lamentablement, passer à côté d'une glorieuse espérance, de rater une vie de famille, de rater une vie d'homme. Il y avait tout. Et Dieu m'a saisi. Et il m'a ramené à lui, il m'a amené à lui, il m'a fait connaître son pardon. Il m'a lavé de toutes mes souillures. Et je retournerai dans ces souillures-là. Et il dit, c'est cela, de quelle déchéance, de quelle ruine il nous a sortis? Que dirons-nous donc si nous retournons à ce qui a provoqué notre ruine? Esdras continue en rappelant que ce n'est pas par ignorance qu'ils sont tombés. Vous savez, parfois, on ne sait pas. Alors, on fait la bêtise, mais comme on ne sait toujours pas, eh bien, on recommence. Et puis, on recommence. Mais là, le peuple, il ne peut pas dire « on ne savait pas ». Il savait, c'était la loi. Ceux qui étaient censés enseigner la loi, le Deutéronome notamment, disait, c'était pas, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Et ils l'ont quand même fait. Et ceux qui étaient chargés de l'enseigner l'ont fait. Et il termine en disant, mais comment pourrions-nous recommencer sans subir ton châtiment? Voilà la prise de connaissance, la désolation et puis la prière d'Esdras. Et on voit à présent la prise de conscience du peuple. Ça, c'est dans le chapitre 10, je lis les versets 1 et 2. « Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jeiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. » Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Pendant qu'Esdras prie, il y a toute la foule qui s'est rassemblée. Et puis, en l'entendant, ils prennent conscience de la gravité de l'outrage. Et ils pleurent. Ils sont tremblants à leur tour. Dietrich Bonhoeffer a observé que lorsque la convoitise nous domine, à ce moment, Dieu n'est plus réel. Satan ne nous remplit pas de haine pour Dieu, mais il nous fait oublier Dieu. Voyez comment fonctionne le péché, la convoitise. C'est comme si Dieu n'est plus réel. C'est comme si... C'est comme si ces paroles n'ont plus prise dans ma vie. C'est Dieu qui... Satan fait en sorte que Dieu n'est comme plus réel. Il n'est plus, il n'y a plus sa sainteté, sa justice, son omniscience, son regard qui voit toutes choses dans nos vies. Et nous, on oublie Dieu cette pensée, nous. Voilà, Dieu n'est plus présent. C'est comme si le peuple n'était plus conscient de la présence de Dieu. Vous auriez interrogé n'importe quel juif, il vous aurait expliqué que Dieu ne veut pas de ces mariages avec les païens, mais voilà, aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'est plus présent. Ils connaissent tous le cas de Salomon. Il se rappelle, et d'ailleurs Néhémie qui aura à traiter une situation similaire, il va prendre Salomon en exemple. Et il dit, Salomon, c'était, il avait la sagesse comme personne. Il a reçu plus de sagesse que nous tous. Et il a méprisé, Dieu n'était plus réel pour lui à un moment. Et il a commencé à s'amasser des femmes. D'une manière complètement folle. Et à se vautrer là, dans ces choses. Et puis, ces pensées qui étaient centrées sur Dieu jusqu'à présent, voilà, Dieu n'est plus réel. Et puis, il commence à se détourner, et puis, il va commettre des choses abominables. Et Néhémie leur dit, mais est-ce que vous pensez être plus fort que Salomon ? Est-ce que vous pensez que vous en sortirez mieux que Salomon ? Il dit, mais c'est insensé de penser comme cela. Si Salomon est tombé, sachez une chose, vous tomberez. Et cette pensée-là, c'est ce qui doit nous réveiller, nous dire, voilà, je vais me séparer du péché. La prise de conscience, c'est le réveil spirituel, je crois. C'est le moment où il réalise. Il réalise vraiment ce qui s'est passé. Il réalise que Dieu est présent. Il réalise que le péché va provoquer sa ruine, une chute vertigineuse, une chute sans retour possible. Imaginez, vous êtes en voiture, là, vous êtes dans les routes de montagne, vous n'en pouvez plus, vous allez vous endormir. Ok, vous dites, je vais faire une siesta. Et vous garez sur le bas-côté. Et puis vous dormez, voilà. Vous dormez, puis au petit matin, vous voulez faire un petit tour dehors, vous ouvrez la porte, et puis là, c'est le précipice. C'est le précipice. Vous regardez, la roue avant, elle est déjà dans le précipice. Et vous dites, je me suis arrêté là. Dieu m'a arrêté juste avant que ma vie s'effondre. Et le réveil spirituel, c'est cette sensation où vous êtes en train de dire, encore un pas de plus, et ma vie était ruinée, détruite à jamais. Mon témoignage saboté définitivement. Ma vie devant mes collègues, devant ma famille, ma vie d'homme de Dieu, tout ça c'est fini. Et vous êtes en train de vous dire, ça y est, Dieu m'a juste arrêté, juste avant que tout s'effondre. Et vous dites, oh, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi ça me fait un haut le cœur. L'idée que mon péché pourrait me faire basculer toute ma vie et ruiner mon existence d'homme, d'époux, de père de famille, ça m'effraie terriblement. Quand on prend conscience du péché, il y a ce même haut le cœur qui nous saisit et qui nous étreint. Votre vie allait connaître la ruine, mais Dieu vous a réveillé juste à temps. La prise de conscience, elle est suivie d'une confession claire. Et c'est ce que fait Shekania, fils de Jehiel. Il dit, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères. Il nomme son péché qui appartiennent au peuple. Et voilà, il est obligé de confesser sa faute. Mais l'instant où il confesse sa faute, là je trouve qu'il y a une perle. Toujours dans le verset 2, il dit, « Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Vous voyez, quand on prend connaissance de la gravité du péché, qu'on en prend conscience, quand on le confesse, à ce moment même, il y a une porte d'espérance qui s'ouvre. Cette notion de dire, je sais qu'il y a une espérance pour moi. Cette espérance reposait sur l'alliance de Dieu, sur son amour, et sur son pardon accordé aux pécheurs vraiment repentants. Je voudrais vous montrer juste quelques passages en 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6, c'est le temps de la dédicace du temple par Salomon justement. Au verset 36, il dit... C'est toute une succession de requêtes de prière qu'il fait. Et voilà ce que dit Salomon. « Quand ils pécheront, chapitre 6, verset 36, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. » Et que dit la suite, chapitre 7, verset 11 ? Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà la porte d'espérance qui est ouverte. Quand on en arrive à la prise de conscience et à la confession de notre péché, alors une porte ouverte de grâce s'opère. Dieu pardonne. Oui, il y a une espérance pour celui qui se repent et se tourne vers son Dieu. Et puis, voyons enfin la prise de mesure radicale. C'est ce qu'on voit dans la suite. Verset 3, il dit « Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Ezra se leva et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Il y a une décision, une prise de décision radicale. Nous savons que leur repentance est entière parce qu'ils sont prêts à prendre des mesures radicales dans leur vie contre le péché. Ils vont d'abord convoquer une assemblée générale. Ils disent, dans 3 jours, tout Israël doit être réuni devant le temple. Tous, petits et grands, tous, sans exception. Pas simplement tous ceux qui ont pris une épouse parmi les femmes étrangères. Non, tout le monde. Que tout le monde sache. Que ceux qui ne sont pas encore mariés sachent qu'on ne va pas engager ces choses-là. Ce jour-là, c'est le 9e mois, c'est-à-dire c'est décembre-janvier, et il pleut. Voilà, ils sont là sous la pluie, parce qu'en Israël, au mois de décembre, il peut quand même neiger aussi. Donc, il fait froid, il pleut, ils sont sous la pluie, ils sont tout tremblants à la fois des conséquences de leur faute et à la fois du froid qui les a transpercés. Mais on voit... Ils sont prêts à tout. Ils prennent une décision radicale. Tout le monde est présent. Et ils décident, dans 3 mois, on va se donner 3 mois pour régler tous ces cas où il y a eu des mariages avec des femmes cananéennes. En fait, chaque couple, pendant ces 3 mois, va être reçu par Esdras et les chefs de famille pour régler chaque situation. Il fallait certainement que les maris offrent un pécule à leur épouse, écrivent une lettre de divorce à leur femme. Certains avaient eu d'elles des enfants et allaient repartir avec leur mère. Il fallait régler toutes ces questions. Et les choses ont été faites. 113 cas sont ici mentionnés. Et parmi ces 113 cas, il y a des cas de sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, c'est-à-dire des responsables du temple. Et Kidner, un commentateur de l'Ancien Testament, dit « Ni les ancêtres, ni la fonction ne peuvent garantir la droiture. » Et je trouve ça intéressant. C'est à relever cela. Parfois on dit « Oh, mais moi... mon père, mon grand-père, tout ça, c'était des chrétiens fidèles. » Ce n'est pas la garantie pour la droiture. Ou, oui, mais moi, je sers le Seigneur, je suis chantre, je suis enseignant de la Bible. J'ai les clés de l'église, je suis portier. Je fais l'accueil. La fonction n'est pas une garantie de droiture. On peut imaginer le chagrin engendré par l'éclatement de ces familles, mais ce chagrin doit être considéré à la lumière de l'importance de la lutte contre la corruption du péché. Il ne faut pas blâmer Esdras, mais il faut blâmer les hommes qui avaient contracté de tels mariages en défiant la loi. Nous avons à prendre des mesures radicales pour ne pas laisser la corruption gagner nos cœurs. Réfléchissez à vos vies. Quel est le péché qui vous enveloppe si facilement, qui revient si facilement dans votre vie et qui plombe votre vie? Et Et dites maintenant, est-ce que j'ai besoin de tomber à chaque fois? Ou est-ce que je peux mettre une barrière? Est-ce que je peux mettre une protection, quelque chose qui empêche que je sombre? Et parfois, la mesure, elle doit être radicale. Et quand on prend des mesures radicales, c'est que vraiment on est déterminé à ce que nos vies glorifient, honorent Dieu, qu'elles ne soient pas sans cesse fauchées par le péché. La leçon à tirer, c'est qu'il faut extirper le péché de façon radicale. En Marc chapitre 9, verset 47, Jésus dit, « Si ton œil, si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. » Faut pas prendre les paroles du Seigneur. N'allez pas vous crever les yeux, je veux dire. Parce que quand on a crevé un œil, on a encore l'autre qui peut nous faire chuter de la même manière. Puis quand on a crevé les deux yeux, on se rend compte que le problème, il est dans notre cœur. Et il faudrait qu'il y ait un arrachement de notre cœur. Et c'est précisément ce que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Il est venu arracher notre cœur de mort, notre cœur de pierre, et nous donner un cœur de chair. Il est venu pour sauver, changer nos cœurs. Mais ce que l'on doit relever de l'enseignement du Seigneur, ici, il insiste sur la gravité du péché et sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour s'en occuper et s'en débarrasser. Je pense à Joseph dans la maison de Potiphar. Il y a cette femme qui revient tous les jours. « Couche avec moi, couche avec moi !» Et lui, il est en train de dire « Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas... Ton mari, voilà, il a la même place que moi. La seule chose qui nous diffère, c'est toi. » Je ne peux pas te toucher. Et puis elle revient, et lui finalement dit, mais je ne peux pas commettre une chose si terrible devant mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'enfuit, et il va être l'objet de fausses accusations et être jeté en prison. Mais en prison, il n'aura pas la visite de Madame Potiphar. Et il va garder sa vie comme cela. Et Dieu va honorer cela et va le faire prospérer aussi en prison. Voyez-vous, il faut prendre parfois des mesures radicales contre notre péché. Mais la mesure la plus radicale qui soit, c'est Dieu lui-même qui l'a prise. Il n'y a pas eu de mesure plus radicale que celle-là. Parce que le péché sépare l'homme du Dieu saint, alors le Dieu saint s'est séparé de son Fils unique, bien-aimé, en le clouant sur la croix à notre place, pour que nous n'ayons pas à connaître cette séparation. Voyez-vous, la mesure la plus radicale qui soit, c'était celle-là. Dieu est intervenu. Dieu, voyant le désastre que produit le péché dans nos vies, Dieu est intervenu. Et le saint, le juste, a été identifié aux pécheurs pour que les pécheurs que nous sommes puissent être identifiés aux justes, aux saints, et connaître l'éternité et la félicité dans la gloire, dans la présence de notre Dieu. Pour que nous n'ayons pas à connaître la séparation. Oui, aujourd'hui, la mesure la plus radicale, c'est toujours celle-ci. C'est toujours Dieu qui paye le prix le plus grand, le plus lourd tribut. C'est Dieu qui le paye. Vous pouvez dire,
Ah oui, mais ça, c'est dur. C'était dur ce qu'ils ont fait. Shekania a dit, sois courageux, lève-toi maintenant. Oui, il fallait du courage. Il faut du courage quand on veut mener la lutte contre le péché. Il faut être radical. Mais sachez une chose, vous n'aurez jamais à connaître une mesure aussi radicale que celle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû connaître. Lui a été identifié au péché. Lui a été identifié au mal. Et c'est ce qui devrait nous encourager. Je veux terminer avec cette liste des versets suivants. Il y a toute une liste de noms. J'ai pensé, là, quand j'ai lu ça l'autre jour, et je me suis dit, mais c'est quand même dur d'avoir son nom depuis 2500 ans dans la Bible à cause de nos péchés qui rappellent au fond notre péché. Mais ce qui me touche, c'est quand même que des hommes qui se sont repentis. La pire chose qui soit, c'est que dans la liste des repentants, notre nom n'y figure pas. Et c'est ça le plus dramatique. Un tel passage peut nous laisser avec beaucoup de questionnements. Fallait-il renvoyer les femmes et les enfants, ou y avait-il une autre solution? Je crois qu'il y avait une autre solution. C'est de ne pas pécher. La solution, c'est de ne pas pécher. Je crois que le péché, par définition, il pose des problèmes. Et aucune solution n'est véritablement satisfaisante contre le péché. Mais la peine, elle, peut être ôtée par la repentance sincère et la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Il y a des gens, je pense à mon grand-père paternel, il était soldat pendant la guerre, il a beaucoup bu, beaucoup fumé, et il a déclenché, il s'est arrêté, et après cela, il a eu un cancer, et il est mort de son cancer rapidement. Il y a des conséquences toujours dans le péché. La solution, c'est de ne pas pécher. La solution, c'est d'échapper à cela. Et on peut échapper à cela quand on porte nos regards sur Jésus-Christ et sur le secours qu'il est prêt à nous offrir, sur la grâce qui nous est faite, sur la puissance de délivrance qu'il opère dans notre vie. Mais si vous êtes déjà tombé, comme nous tous, ou si vous êtes dedans en ce moment, sachez une chose, il y a une porte d'espérance pour vous. Il dit, l'instant où ils confessent leurs péchés, il dit, mais Israël n'est cependant pas sans espérance. Et c'est ce que je voudrais vous laisser. Vous n'êtes pas sans espérance. Aujourd'hui même, vous pouvez avoir la victoire, vous pouvez avoir le pardon, vous pouvez mettre en œuvre des mesures radicales dans vos vies pour échapper au péché. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous secoure dans chacune de nos luttes personnelles. Amen.